Nous sommes ce que nous mangeons. Si comme nous, vous pensez que notre alimentation peut changer le monde, vous êtes au bon endroit. Je suis Fanny Giansetto, cofondatrice et présidente d'Ecotable. Ecotable s'est donné pour mission d'accompagner le secteur de la restauration dans sa transition écologique en permettant aux restaurateurs de mesurer leur impact environnemental, de se former aux enjeux écologiques et de valoriser leur travail auprès du grand public. Dans ce podcast, j'explore les enjeux sociétaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. Je donne la parole à des experts, mais aussi à celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien, qu'ils soient restaurateurs, agriculteurs, entrepreneurs ou militants. La transition écologique ne se fera qu'avec le plus grand nombre. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à ce podcast, le noter et nous laisser un commentaire, suivre Ecotable sur les réseaux sociaux, mais surtout venir manger dans les restaurants Ecotable. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la militante de l'assiette est Laure Verdeau. Laure est depuis quelques mois directrice de l'Agence Bio, l'agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique. Avant de prendre la tête de cette agence, Laure a accompagné des centaines d'entreprises françaises dans leur stratégie, que ce soit via sa structure Réaliment ou BPI France. Au sein de l'Agence Bio, Laure a aujourd'hui un rôle majeur dans le développement du bio en France. Je suis donc ravie de lui donner la parole aujourd'hui. Bonjour Laure.
Bonjour Fanny, merci de m'accueillir.
Est-ce que tu peux te présenter déjà ?
Alors, je suis Laure Verdeau, vais avoir 40 ans cette année. J'ai grandi en Corse, j'ai rallié le continent, comme on dit, pour faire des études de commerce et de sciences politiques. Et puis ensuite, j'ai commencé dans le marketing et le conseil. Et puis, j'ai eu une espèce d'épiphanie au bout de 4 ans d'activité où je me suis dit que je voulais vraiment me mettre au service de la transition alimentaire. Et j'ai décidé de mettre tout ce que j'avais appris jusqu'ici au service des PME, donc celles qui fabriquent le gros de notre nourriture en France, partout en France. Et je me suis donc mise à leur service pendant une dizaine d'années, effectivement, comme tu le disais, d'abord en indépendante. Et il s'est trouvé que les PME françaises, elles avaient souvent pas le réflexe de recourir à du conseil. Et donc, je me suis retrouvée assez vite à conseiller des grands groupes qui voulaient racheter des PME ou conseiller des grands distributeurs qui, à l'époque, se disaient « il faut qu'on fasse de la place pour les PME dans nos rayons ». Et puis, et c'est à ce moment-là que BPI France s'est montée, qui s'est voulu la banque unique des PME. Le dirigeant s'est dit, ça ne suffit pas de donner de l'argent à un patron de PME, il faut aussi qu'il puisse recourir à du conseil extérieur, à un regard extérieur, qu'il ne soit pas seul. Du coup, je suis rentrée chez BPI France en tant que consultante, et puis au fur et à mesure, j'ai accompagné vraiment les PME de la transformation, c'est-à-dire surtout à partir du moment où on prend le produit agricole et qu'on va en faire de l'huile, des biscuits, des steaks hachés. C'est comme ça que j'ai sillonné la France et je me suis absolument régalée. La question se posait toujours de est-ce qu'il ne faut pas qu'on développe une gamme bio parce que le bio était en plein boom. Et puis
quand tu dis une gamme bio, c'est le fait que BPI aurait pu davantage accompagner le secteur bio.
Alors en gros, au sein de BPI, on faisait des missions de conseil en stratégie, c'est-à-dire qu'on aidait le dirigeant à se poser avec un consultant, avec plusieurs consultants qui, en fonction de ses besoins. Et souvent, le premier besoin, c'était de se poser, de dire où est-ce qu'on veut être dans 10 ans, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi notre proposition de valeur, c'est quoi notre mission. À l'époque, c'était pas encore la mode, l'entreprise à mission. Et par exemple, moi, ma première mission que j'avais faite, c'était des ratatouilles de très bonne qualité, donc mises en bocaux près des Alpilles. Et il disait, mais qu'est-ce qu'on fait? On vend surtout la grande distribution. Est-ce qu'on développe une gamme en bio? Parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de biocoop dans les parages, etc. Et donc, c'est tout un enjeu. Par exemple, si demain tu veux faire une gamme de bio en ratatouille bio, faut que tu trouves les légumes bio. Et puis, faut que tu aies des étiquettes. T'es une marque ad hoc parce que y a pas les mêmes marques dans les circuits bio, les circuits traditionnels, dans les Leclerc, les Intermarché. Et donc, ces dirigeants-là, les journées font que 24 heures. C'est déjà des gens qui sont surmenés. Ils se disaient, mais est-ce que vraiment il faut le faire? Qu'est-ce que ça va nous consommer comme ressources, comme temps, comme énergie? Et puis, parfois, c'était pas du tout cette question-là qui se posait. C'est, tiens, notre ratatouille provençale, elle est à base de courgettes espagnoles. Est-ce que la priorité, ce serait pas de trouver quelqu'un qui fait des courgettes dans les parages? Et donc, c'est en fait, l'émission, elle consistait à poser toutes les options sur la table. Et souvent, effectivement, la question, c'est est-ce qu'on n'irait pas voir du côté du bio? Parce qu'à l'époque, les acheteurs du bio, ils étaient quand même des chaînes bio, ils étaient quand même beaucoup moins féroces que les acheteurs de la grande distribution. Et donc moi, j'accompagnais parfois certains de mes clients en session. Je voyais que s'ils vendaient les deux, c'était assez rigolo. Parce qu'on arrivait dans le box de l'acheteur, une grande enseigne d'hypermarché, supermarché. Et donc mon client, il arrivait avec ses produits. Il avait une gamme bio, une gamme pas bio. C'était le cas d'une PME qui faisait du cochon. Et donc, il arrive avec ses lardons pas bio et donc, il n'a même pas droit à un verre d'eau. L'acheteur lui dit, non, mais c'est quoi votre prix cette année? Combien passe de baisse, etc. Bon. Et puis après, il dit, bon, ben, concernant mes lardons bio. Et là, effectivement, c'était le moment où il y avait une grosse pénurie du bio. Et tout d'un coup, l'acheteur change de visage, offre un café, un verre d'eau à mon client et dit, oui, bah, alors, on a pensé à un contrat sur 3-5 ans. Voilà notre prix. Donc, un prix pas du tout tiré vers le bas. Et c'est vrai que c'est
incroyable.
C'est en voyant ça, je me suis dit mais il y a une fantastique opportunité à l'échelle des PME parce que moi déjà j'ai un côté un peu patriote alimentaire. J'aime bien savoir que quand notre nourriture elle est fabriquée sur notre territoire, qu'elle crée des emplois. Et les PME c'est vraiment la taille d'entreprise qui crée beaucoup plus d'emplois qu'un grand groupe ou une start-up. Donc moi je crois vraiment à l'emploi. C'est le premier emploi secteur d'emploi industriel, hein, l'agroalimentaire. On pense toujours à la chimie ou à l'aéronautique. L'agroalimentaire, je crois que c'est 2 millions de d'emplois indirects.
Okay.
Donc c'est vraiment clé. Et donc, je me suis dit, mais en fait, le bio, il y a sans doute une mission, même française, le côté... je crois qu'il y a que les Français et les Américains qui se croient révolutionnaires et qui voudraient faire qui ont ce côté universaliste et messianique. Oui, et si on était le pays leader de la transition alimentaire? Et globalement, dans la transition alimentaire, il y a plein d'initiatives, et d'ailleurs, Écotable représente vraiment ce foisonnement-là. Et moi, mon credo, et c'est pour ça que je suis ravie d'être à l'agence, c'est que dans tout ce foisonnement, il y a quand même quelque chose qui est un point d'ancrage, un point de repère, qui est le bio. Et qui c'est parce qu'il est ancien, c'est parce qu'il a, c'est une démarche globale c'est à la fois une philosophie et des pratiques et un cahier des charges encadré par un règlement déposé à Bruxelles. Donc c'est très, c'est un point de repère, exactement. Et donc du coup, il y a quand même plus d'un Français sur deux qui ne comprend pas pourquoi le bio est plus cher. Donc il y a un vrai enjeu parce que le bio, c'est une agriculture qui est créatrice d'emplois, c'est 30% d'emplois en plus, c'est des exploitations qui sont souvent plus petites et on voit que les Français sont attachés à des tailles d'exploitation qualifiées de taille humaine. Bon, personne n'a jamais défini la taille humaine, mais l'idée est quand même là. Et puis c'est des profils, enfin tu vois, un agriculteur vend, t'as une chance sur deux que les 50 000 agriculteurs en France, 57 000 d'ailleurs au dernier recensement, vendent en direct.
Okay.
Je crois que la moyenne nationale, c'est 20%. Donc, il y a un contact direct. Il y a tout un ADN qui n'est pas forcément traduit dans les faits du règlement, mais qui, pour moi, contribuera à faire de la France le leader de la transition alimentaire. Avec cette nourriture, comme si je prends nos voisins de slow food, propre, honnête, juste, pulita, sana. Pulita sana, je sais plus comment
c'est. Je sais plus.
De Carlo Petrini. Voilà, donc.
Je voudrais qu'on revienne sur ton parcours avant d'arriver à l'agence bio. Tu nous as dit, j'ai eu une épiphanie à un moment. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, tu aies ce déclic de c'est l'alimentation, en fait, mon truc?
Alors, il y avait un terreau favorable. Moi, j'ai grandi dans une famille de femmes, tout le temps au régime.
En Corse.
En Corse, oui, bah c'est assez matriarcal. Donc effectivement, il y avait les repas de famille, mais globalement, la nourriture, c'était presque plus source d'angoisse. Alors ma mère a un rapport beaucoup plus sain, beaucoup plus, mais c'était dans l'air. J'ai été biberonnée aux journaux féminins qui parlaient des régimes à l'époque. Enfin, j'ai quand même grandi dans les années 80. C'est l'âge des ténèbres de la transition alimentaire. C'est quand même là où je pense qu'on a touché le fond. C'est là où on avait des régimes absurdes. Je me souviens très bien, à 8 ans, je feuilletais le L, il y avait un régime 100% sucré pour une semaine, avec des menus où je me disais, mais en fait, une journée ne fait même pas mon petit déjeuner, quoi. Et puis, donc, c'était la grande période aussi où, je me souviens, mes copains, ils trouvaient que c'était du dernier ringard d'avoir une purée de pommes de terre avec des pommes de terre et qu'il fallait l'avoir en flocons. La modernité, c'était ça. Et puis, c'est aussi l'époque des Lucky Charms. Je sais pas si... des céréales qui colorent le lait en couleur arc-en-ciel. Enfin,
ah oui, oh là là.
Enfin, voilà d'où je pars. Donc, il y a toujours eu, l'obsession du poids, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que, quand j'ai eu un gros coup de fatigue, justement, où j'ai dû me poser quelques mois à réfléchir, j'ai eu un problème de dos, j'étais paralysée, donc j'étais obligée de réfléchir. Et je me suis rendu compte que l'alimentation, c'était ma clé de lecture même. J'adore l'histoire de France. J'allais toujours naturellement vers comment mangeait Madame de Sévigné, comment mangeait la cour de Louis XIV, comment... J'ai l'impression que c'est comme si c'était le prisme qui permettait de voir, d'envisager tous les aspects sociologiques, les rapports de force, le fait. Moi, ce qui me fascine, c'est que donc à la cour, le plat arrivait chez Louis XIV et ensuite il allait au bout de la table, il partait des deux côtés, c'était des tables en U. Bon, bah, en fonction de ton rang à la cour, t'avais faim parce que t'étais au bout et t'avais pas assez.
C'est vrai ça.
Donc j'adorais ça dans les films. Par exemple, je suis incapable de regarder un Scorsese et de te raconter l'histoire, mais je vais te dire, ah ben il y a une scène en prison, ils font il se met à la colle avec les deux tenues italiens, ils font des pâtes à l'ail, et à un moment ils coupent l'ail avec une lame de rasoir, et donc ça a l'air trop bien parce que l'ail est coupé hyper fin.
T'as une mémoire culinaire.
Voilà, exact. Oui, ni visuel ni olfactif, non, culinaire. Donc en fait, ça a toujours été ma clé de lecture, et quand j'ai eu cette espèce de dernier discale et que j'ai dû me poser, je me suis dit mais je savais même plus, j'avais plus envie de rien, je savais même plus ce qui se
passait. T'étais en burn-out quoi.
Moi, j'avais un gros coup de fatigue et je me suis rendu compte que ma généraliste m'a dit « Bon, faites-moi une liste de ce que vous aimez bien parce que là, ça va pas du tout. » Et donc, j'ai commencé à la lister. Bon, clairement, c'était très lié à l'alimentation et je me suis dit « Bah, en fait, à l'époque, je travaillais dans le 8e arrondissement, Avenue Montaigne, et le meilleur moment de ma journée, c'était quand j'allais chez Cogent. » J'adorais Cogent à l'époque, on est donc en 2010, ça devait avoir peut-être 10 ans, il a dû se monter au début des années 2000 et j'en revenais pas d'avoir plein de légumes. Moi, je suis toujours frustrée d'aller dans une brasserie d'avoir sur la 50% de la surface de l'assiette de la viande, 50% des frites et une feuille de salade symbolique avec une qui est noyée dans la vinaigrette. Moi, justement, ma famille de femmes, la priorité c'était de mettre au centre de l'assiette du légume pour caler, pour les fibres, blablabla, etc. Et donc chez Cogent, j'avais l'impression de revenir un peu à la maison. Il y avait ce côté très vert, et puis quand même gourmand. Et donc en fait, quand j'ai eu cette espèce d'épiphanie, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris mon plus beau clavier, pour écrire à Alain Cogent en lui disant j'adore ce que vous faites, on peut pas faire un truc quelque chose ensemble. Voilà.
Donc, parce qu'à l'époque, tu faisais quoi?
Et ben à l'époque, j'étais dans le conseil, mais dans un gros cabinet américain.
Ok.
Et qui n'avait pas de clients dans la nourriture.
Ok, parce que t'as donc je comprends, t'as un parcours, disons, un peu traditionnel. T'as fait une école de commerce, t'as fait Sciences Po après, c'est ça?
Non, j'ai fait Sciences Po d'abord.
D'accord.
Et après, j'ai fait une école de commerce pour rentrer dans le conseil, parce qu'à l'époque, Sciences Po avait pas fait tout à fait sa mue. On rentrait pas directement dans un cabinet de conseil après Sciences Po, quoi.
Et alors moi, ça m'interroge. Tu t'es dit, je veux faire du conseil.
Ok, si je suis honnête, en fait. Alors, quand j'étais encore à Sciences Po, avant de faire justement l'ESSEC, j'ai croisé des gens qui bossaient dans le conseil et ils bossaient très tard. Ils me disaient « Oui, mais en fait, on nous commande nos repas. » Et la dernière fois, on m'a commandé des coquilles Saint-Jacques. Je revois le mec qui est resté un ami, François. Et il me dit « Oui, voilà, ça, la dernière fois, oui, j'ai fait une nocturne, mais bon. » Je me suis fait livrer des petites coquilles Saint-Jacques, etc. Et je me demande si c'est pas ça qui a tout déclenché. Après, d'une manière générale...
Moi aussi, je vais me faire livrer des coquilles Saint-Jacques.
Non, après, c'était un peu le choix du non-choix. C'est très généraliste, le conseil. Mmh. Et puis, il y a le côté stratégie d'entreprise. Et puis, j'avais plein de mauvaises raisons d'aller faire du conseil en dehors de ça. Si vraiment je reviens en arrière, c'est que quand j'étais dans le marketing, dans le luxe, il y a eu une mission de conseil qui s'est déroulée, qui a retourné la boîte. Et je me suis dit, mais en fait, le pouvoir est là. Si on veut faire bouger les choses, faut être dans le...
Ah, tu veux dire que t'as fait Sciences Po, puis t'es rentré chez LVMH, et ensuite t'as fait l'ESSEC pour faire du conseil.
Exactement.
Ah, d'accord, ok. Ok, ouais. Intéressant. Et donc, tu restes combien de temps dans le conseil?
Eh ben, chez Bain, du coup, 4 ans. 4 années très rigolotes, mais où, clairement, il y a un moment, mon corps peut plus.
Ouais.
Et puis ensuite, je me mets à mon compte. Et,
c'est au moment où t'écris à Alain Cogent?
Ouais, voilà.
Il te répond?
Oui, bien sûr. On a pris un apéritif ensemble.
Okay.
Mais je crois qu'à l'époque, il était en... Je sais pas s'il avait déjà un fonds d'investissement, mais je sais qu'après, il a recruté une consultante pour l'aider. Mais à l'époque, ça allait très bien. Il n'avait pas...
Il n'avait pas de besoin.
Non. Et puis, en fait, je l'ai plus vu en groupie que... J'étais une groupie avec un CV, mais j'étais très contente de voir qui avait eu cette fantastique idée. À l'époque, il faisait des espèces de crumbles salés. On n'avait pas vu ça, c'est trop bon, avec du parmesan. Bon, bref, j'ai aussi récupéré plein d'idées, moi, qui meublent encore mon quotidien chez Cogent.
Et qu'est-ce qui te fait passer le cap de fonder ta structure?
Eh ben, en fait, j'ai eu un de mes premiers clients, c'est Exquis. Et okay. ça a été une super expérience parce qu'il commençait, donc c'est une entreprise belge avec qui d'ailleurs inclut pas mal de bio dans son offre et qui s'implantait en France et puis qui voulait un peu parisianiser son offre, qui réfléchissait à des opérations pour son trafic, etc. Et puis ça a été mes premières missions en tant qu'indépendante. Donc je les remercie parce que je pensais que ça allait être du provisoire. Puis c'est du provisoire qui a finalement duré parce que ensuite dans mes missions, il y a eu j'ai travaillé avec Yannick Migoto que tu connais peut-être. Qui Yannick Bigoto, c'est quelqu'un aussi qui paraît, qui est parti, qui a fait du conseil, ensuite qui a travaillé chez Casino et qui a été aussi indépendant. Et on a fait une mission ensemble pour à l'époque l'enseigne Franprix, qui voulait faire entrer des PME dans ses rayons, hein, qui remodelait son concept à l'époque. Il a été remodelé plusieurs fois et ça a été extraordinaire. Ils nous ont donné carte blanche. On a sillonné la France. Donc alors le but c'était d'avoir des PME qui étaient assez grosses pour avoir un quai d'expédition, les agréments vétérinaires, etc. Mais qui étaient assez petites pour être passées sous le radar des acheteurs, qui n'avaient pas les moyens d'aller dans les salons, etc. Donc comment on trouve des PME dans cette taille-là? Évidemment, tu peux pas leur entrer dans Google petite PME. Donc il faut par capillarité les trouver en croisant plusieurs réseaux, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce, le MEDEF local, les entités régionales de l'ANIA, l'Association nationale des industries agroalimentaires qui se décline à l'échelle des régions, et puis de bouche à oreille. Et donc en fait, on avait quelques points d'ancrage dans des régions, c'était en Dordogne, en Auvergne, et ça a fait un peu tache d'huile. On y allait, et puis là, on rencontrait des producteurs. Et là, c'est là où j'ai découvert ces gens qui avaient des entreprises incroyables, souvent familiales. Et donc, on a récupéré toutes sortes de paniers du quotidien de la ménagère avec des produits régionaux, mais pas que, enfin, qui avaient une vocation nationale. Et on les a fait déguster aux acheteurs de Franprix. Et il y avait vraiment eu, une volonté d'accueillir de l'inédit. Je me souviens d'une laiterie artisanale dans le Périgord.
Ouais, ok. Et comment t'arrives en tant qu'indépendante qui n'a pas spécialement travaillé dans l'agroalimentaire à convaincre ces gros-là tout de suite d'être accompagnée par toi?
Alors exquis, pareil, je leur ai écrit.
Ok.
Et puis je les ai croisés dans les salons. Au début, en fait, j'ai fait quelques missions. Il y a des cabinets spécialisés pour la restauration, donc j'ai fait quelques missions en sous-traitance. Et puis, je pense qu'il y a eu un moment où ils se sont dit c'est pas possible, il faut qu'on la prenne parce qu'elle va pas nous lâcher. C'est peut-être, je crois que mon signe astrologique c'est Fox Terrier, je ne lâche pas. Et parce que j'avais vraiment un projet il y avait un alignement de vision. J'étais l'archétype de leur cliente, donc on avait un petit bout de chemin à faire ensemble. Je travaillais pour l'INAS aussi à l'époque où ils se cherchaient. Ça a été un peu, j'étais l'archétype de cette clientèle de quartier de bureau, pressée, etc. Franprix, c'est Yannick, c'est grâce à Yannick et parce que il y a un moment où c'est du temps, c'est beaucoup de temps et d'énergie on peut pas mettre au siège d'un distributeur comme Franprix. Et donc on avait des partenaires à l'époque, Jean-Paul Mochet, c'est lui qui avait commencé, il avait mis dans les rayons une bière artisanale absolument géniale et puis de fil en aiguille, il y avait vraiment du flair, il y avait de la gourmandise quand on ramenait nos produits de PME en les présentant.
Ouais. Okay.
Et on présentait que ceux, on tamisait des dizaines de pépites de PME partout en France et on en a ramené une soixantaine en dégustation. Quoi.
Et t'étais seule dans cette structure qui s'appelait donc Réaliment?
Oui, moi je suis restée seule. Ouais.
Ok, et combien de temps ça dure?
Ça dure de 2010 à peu près à 2016 en fait.
Ok. Et là, c'est BPI qui vient te chercher ou c'est toi qui vois que BPI se lance et se dit, ah ben en fait...
Je me retrouve dans le vivier des consultants de BPI.
Ok.
Parce que là aussi, c'est un marché, le consultant indépendant, ça a commencé à se structurer avec des espèces de plateformes comme, WIM, One Man Support. D'ailleurs, One Man Support qui à l'époque travaillait avec BPI France. Et donc il y avait toutes sortes de profils, des seniors, des gens très spécialistes et moi au moment où ils faisaient passer des auditions pour recruter dans ce vivier de consultants, je leur dis c'est génial mais vous avez l'air de faire beaucoup de boulons d'industrie. Moi c'est des trucs qui se mangent. Ils me disent oui mais bien sûr on va se développer, pas de problème. Et de fait, j'ai été rappelée par celui qui ensuite allait gérer ce département de conseil pour faire cette mission dans les ratatouilles.
D'accord. Ok. Mmh. Et là, tu rentres ensuite complètement chez BPI ou tu restes indépendant?
Et après, du coup, je rentre chez BPI pour parce que l'activité de conseil de BPI, c'est parti du postulat que un chef d'entreprise, il n'y a pas forcément le réflexe de s'entourer d'avoir recours à l'expertise extérieure. Et quand bien même il voudrait, en fait, il ne sait pas où trouver. Mmh, et puis, il ne sait même pas à quel prix. Et donc, tout l'enjeu, c'est de lui faciliter la vie. Donc, actuellement, je crois qu'il y a un vivier de plus de 300 consultants qui de toute spécialité, de tout secteur, qui est constitué chez BPI, parce que je suis partie quand même il y a quelques temps. Et ces gens-là, en fait, ils interviennent avec c'est des interventions d'une dizaine de jours qui sont ultra bordées, à des prix négociés, c'est un peu le tarif BPI. Et le but, c'est de faire goûter à du conseil à des dirigeants de PME pour qu'ils aient envie qui ça rentre dans leur réflexe. En fait, c'est une façon de démocratiser le conseil parce que sinon, il y a que les grands groupes qui ont recours à l'expertise.
Oui, bien sûr. Mais quand même, BPI fait payer ses services à ses entreprises.
Oui, c'est comme chez le psy. Enfin, si tu payes pas, tu n'as pas de valeur. Donc, mais c'est des tarifs qui sont peut-être un quart de ce que ça devrait représenter. Parce que de toute façon, il n'y a pas de cabinet de conseil pour les PME spécifiquement, en fait.
Ok.
Il y en a très peu.
Et c'est pendant BPI que se passe du coup ce déclic du bio.
Oui, en fait, je me retrouve du coup, déjà en tant qu'indépendante, j'allais beaucoup sur les salons. Et sur les salons, je voyais le stand de l'agence bio et je me disais, d'ailleurs, j'avais l'impression que le bio était beaucoup plus à l'époque qu'il n'était en réalité parce que c'était toute la force de l'agence de communiquer. Puis mon prédécesseur, Florent, est venu plusieurs fois nous présenter le business du bio parce que effectivement, maintenant c'est un segment de marché à part entière. C'est plus une niche, tu vois. Le bio, c'était 1% du marché il y a 20 ans quand l'agence s'est créée, l'agence bio. Maintenant, on en est c'est 12 milliards. Si on ramène ça au marché alimentaire en grande surface de Nielsen, c'est 106 milliards. Donc, c'est plus une niche, en fait, c'est plus anecdotique. Et c'est, comme je te le disais, 10% des agriculteurs. Donc, et donc là, effectivement, dans tout le panel des chemins de croissance qu'on peut prendre une PME d'agroalimentaire, il y a plein de choses qu'elle peut faire. Mais effectivement, la question qui vient très, très vite... Et du coup, moi, quand je supervise les missions, je prends à mon tour des consultants qui sont des anciens de grands groupes agroalimentaires. C'est est-ce qu'on fait du bio? Et est-ce qu'on fait du bio pour où? On fait du bio pour la grande distribution ou pour la distribution spécialisée? Parce qu'il faut avoir à l'esprit que il y a beaucoup de dirigeants, ils ont un outil industriel où ils veulent absolument rentabiliser, veulent faire du volume. Or, le bio, c'est souvent, ça peut être des plus petites séries. Donc, en fait, il faut juste avoir à l'esprit que en France, il y a à peu près 15 000 points de vente d'enseignes type Auchan, Leclerc, Carrefour, etc. C'est ce qu'on appelle GMS, les grandes et moyennes surfaces. Et il y a à peu près entre 3 et 4 000 GSS, grandes surfaces spécialisées, les Biocop, les Leclerc, etc. Okay. Donc, c'est pas les mêmes circuits, c'est pas la même empreinte, c'est pas la même clientèle, parce que le bio était au début très urbain, même si c'est en train de changer. Là, il y a des ouvertures dans des zones périurbaines. Et donc, c'est pas la même approche. Et donc, un patron de PME, il se dit, ben voilà, je voudrais tester le bio. Comment est-ce que je fais? Et surtout, comment est-ce que je rentre dans mon investissement en temps, en énergie pour me sourcer des produits, des ingrédients? Et avec qui je veux traiter. Puis il y a d'autres circuits de distribution. Par exemple, moi je me souviens, j'ai accompagné une laiterie. Ils disaient, et si on faisait du bio, c'était au moment où il y a les états généraux de l'alimentation, où on décide qu'on va mettre 20% de l'assiette en bio dans les cantines.
Et là, loi Egalim.
Exactement, loi Egalim. Et là, le dirigeant se dit, mais si je tentais pas d'approvisionner la cantine de mon fils? Et là, il se dit, bon, en plus, j'ai déjà les conditionnements en 5 litres, parce que oui, c'est ça, c'était de la crème fraîche. Et le truc a cartonné. Mais ça fait partie de... En fait, un consultant en stratégie, ça consiste à poser toutes les options de croissance sur la table.
Ouais.
Et c'est vrai que là, quand tu parles de déclic du bio, c'est pas forcément déclic du bio, mais d'une manière générale, la PME française, elle a tout intérêt à monter en gamme. Parce que, on a, pour des raisons de coût de main d'œuvre, pour des raisons de fiscalité, parfois, on peut être considéré comme plus cher. Et donc, quitte à être un peu plus cher, effectivement, on va pas faire du volume comme certains de nos voisins, les Allemands font du volume. Nous, il vaut mieux qu'on fasse de la valeur.
Ouais.
Et que, nous, nos Mercedes en France, c'est les volailles de Challans, c'est les lentilles du Puy. Donc, il faut vraiment qu'on puisse répondre à l'envie d'avoir des produits pas anonymes du consommateur. Il veut Il n'y a pas que des questions de label, il y a aussi de la provenance. Moi, quand je veux des flocons d'avoine bio, j'ai envie de savoir d'où ils viennent en France. Il y a un vrai enjeu aussi. Et là, je parle de ça, c'était avant le Covid. Maintenant, la souveraineté alimentaire, la résilience alimentaire, on n'entend plus que ça. Et donc, il y a un vrai enjeu autour de ça. Mmh. Et donc, le bio, effectivement, faisait partie de tout le panel de tout ce qu'on devait envisager pour être sûr qu'on passait à côté d'aucun chemin de croissance rentable.
Ouais.
Et qui valorisait le produit.
Ouais. Et alors, tu nous as parlé de déclic alimentaire, mais pas encore de déclic environnemental. Est-ce que t'es quelqu'un qui a toujours été engagé? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, faut que j'aligne mon accompagnement des entreprises vers aussi une transition alimentaire? Tu nous as parlé de transition alimentaire au début. Raconte-nous.
En fait, l'angle environnemental. Peut-être qu'il est, c'est pas le premier que j'ai embrassé. Le fait est que moi j'aime bien les solutions indépendantes, autonomes, low tech. Par exemple, j'ai un ami entrepreneur qui est dans le bâtiment et il réfléchit à un bâtiment qui serait à la fois chauffé, climatisé et dont les ascenseurs fonctionneraient même si demain le monde s'écroule. C'est un peu transposable au bio. Moi, ce qui m'a vraiment interpellée dans le bio, c'est le fait d'être autonome. Je suis pas hyper à l'aise avec l'idée que la France doive importer des engrais de synthèse ou des pesticides de synthèse. En plus, par camion. Effectivement, c'est... Donc, moi, mon enjeu, effectivement, c'est... Je suis stressée par tous les camions qui circulent avec des denrées alimentaires. Donc, et je suis effectivement stressée par l'idée que des intrants doivent circuler pour pouvoir produire. Donc, c'est... Ça a été mon premier...
Donc, ton angoisse, c'est la collapsologie, en fait. C'est la...
Non, quand même pas. Quand même
non,
pas.
Mais pourquoi pas? Moi, ça fait partie d'une de mes angoisses. Je me dis comment on fait demain si le monde s'écroule. Et je pense qu'on se l'est un peu tous posé avec la pandémie.
Oui. Ben, avec le bio, le fait est que c'est une forme de production alimentaire, donc élevage et puis culture, qui est autonome, beaucoup plus autonome par nature, même si on en parlera, mais il y a des limites, parce que ce sont souvent des exploitations qui sont un peu plus petites et qui doivent... trouver la nourriture des animaux ou sur l'exploitation ou dans les parages. Donc, il y a vraiment... Il y avait l'idée de siffler la fin du balai des camions. Alors, il y a évidemment du bio qui vient de très loin. Il y a plein de bio espagnol. On importe un tiers de nos courgettes, bio pas bio. Enfin, deux tiers de nos courgettes, d'ailleurs, bio pas bio. Donc, effectivement, c'est pas la seule solution. Mais... Moi, il y avait l'idée que tous les agriculteurs bio que j'avais croisés, ils m'avaient l'air vraiment bien dans leurs baskets. Mmh. D'ailleurs, j'en ai pas vu beaucoup manifester. Je crois que j'ai pas connaissance d'agriculteurs bio furieux. De toute façon, il peut pas aller balancer du fumier devant une préfecture dans la mesure où il a besoin du fumier pour fertiliser. Donc bon. Donc il y avait un enjeu. Moi, effectivement, l'environnement, c'est ce qui m'a séduit, mais ce qui répond à mes angoisses, c'est le fait de créer des emplois, les emplois de demain. C'est d'arrêter de déconnecter le mangeur et le producteur. Et ça, c'est vrai que le fait que ce soit vraiment dans l'ADN des agriculteurs bio de vendre en direct, c'est sans doute quelque chose aussi qui a fait écho à moi. Il y a le fait d'être aussi... pour moi, les bio, en fait, c'est un peu des geeks, dans la mesure où ce sont des gens qui peuvent pas passer du jour au lendemain comme ça en bio. Il faut mûrement réfléchir. Préparer effectivement ces débouchés.
Innovation, quoi.
Ouais. Rétro-innovation, parfois j'ai entendu, mais c'est juste que tu es obligé d'être vraiment formé pour pouvoir. Parce que si tu produis en bio, c'est comme si tu t'attachais une main dans le dos. Tu te prives de 80% des pesticides de synthèse. Tu vas avoir une palette chimique beaucoup plus réduite. Tu vas pas pouvoir traiter préventivement avec des antibiotiques des animaux. Donc, c'est difficile. C'est, si on transpose si on part du principe qu'un agriculteur est un entrepreneur comme un autre, et c'est le cas, quand tu passes en bio, déjà, t'as 3 ans de conversion, c'est pas anodin, et tu prends plus de risques. Tu es plus à la merci des aléas climatiques, tu es plus à la merci des rongeurs, des ravageurs, parce que t'as pas le même arsenal. En fait, ce qu'on remarque, c'est que le bio se développe comme une tache d'huile. Quand un entrepreneur a fait le choix de partir en bio, de passer en bio, déjà, il y reste en général. On remarque qu'il y a 4-5% de gens qui sortent du bio chaque année, et encore la moitié, c'est parce qu'ils partent à la retraite. Hein. Donc, en fait, il y a un effet cliquet. Il n'y a pas vraiment de retour en arrière. Il se trouve que quand un agriculteur passe en bio, il est convaincu, il voit effectivement qu'il valorise sa production, et ses pairs tout autour du coup, voient son exemple et par capillarité, se convertissent aussi. C'est pour ça que l'Occitanie, par exemple, ou la Nouvelle-Aquitaine sont des régions très en avance pour le bio. Et c'est vrai que pour pouvoir produire, comme je te disais, avec beaucoup moins de moyens à ta disposition, parce que tu n'as pas d'intrants chimiques de synthèse, parce que tu dois produire en plein sol, ça c'est hyper important, il y a un rapport au sol dans le bio qui fait que, ben oui, tes fraises, elles vont être près du sol, et il y a un risque de moisissure, tu peux pas autant contrôler que si elles sont en bac ou en substrat. Eh bien, tu prends plus de risques, mais du coup, tu es obligé d'être plus, de t'armer, même intellectuellement, de te former. Et moi, je suis assez fascinée parce que chaque fois que je vais sur une exploitation en bio, je vois que ce sont des gens qui, là, le dernier maraîcher que j'ai visité, il avait fait une première partie de sa vie qui n'avait rien à voir. Il n'était pas du tout agriculteur. Il s'est retourné s'installer dans son bled d'enfance. Et il était en bio. Et ils cherchaient à se former à la permaculture. Donc, on a vraiment des gens qui sont toujours dans une dynamique de progrès, qui ont besoin justement de se nourrir d'expertise parce que ils sont forcément dans un plus vulnérable vu qu'ils se privent de toutes sortes de dispositifs qu'ont les autres.
Ouais, bien sûr. Et donc, comment tu arrives à l'agence bio concrètement?
Eh bien, j'apprends que mon prédécesseur du coup part en plein confinement et à l'époque du coup j'en ai parlé à BPI parce que BPI ça faisait des années que je disais il faut qu'on fasse qu'on soit la banque de la transition alimentaire et de fait BPI est la banque du climat maintenant.
D'accord.
Donc ça en fait partie mais c'est vrai que les clients principaux sont pas forcément dans l'agroalimentaire et on était déjà très actifs côté start-up de la food tech, de l'agtech. Mais tout ce qu'on a pu faire, on a monté un accélérateur agroalimentaire où il y a des cohortes de PME d'agroalimentaire qui forment un collectif, ont des cours collectifs, ont du conseil individuel, sont vraiment boostés par BPI. Mais du coup, j'arrivais un peu en bout de course. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment avoir un passer de l'échelle d'accompagnement individuel d'entreprise à l'échelle d'après. Et du coup, j'en ai parlé du coup à Nicolas Dufour, j'en ai parlé à Guillaume Mortelier qui s'occupe de l'accompagnement chez BPI. J'ai dit, voilà, ça serait peut-être une façon de continuer par d'autres moyens. Et puis, j'ai fait un travail d'approche à l'époque. C'était Didier Guillaume. Et j'ai dit, écoutez, je sais que normalement, c'est un fonctionnaire... Et je sais que c'est plutôt quelqu'un agronome. Mais je me dis, moi, je viens de Laval, je viens de la transformation. Et l'enjeu de demain, ça va être que le boom de la consommation du bio, ça entraîne dans sa croissance les agriculteurs. Donc, est-ce qu'on a un ticket à jouer? Est-ce qu'on pourrait pas vraiment rapprocher l'amont et l'aval, la transformation et les agriculteurs, pour faire en sorte que le boom du bio profite à la bio française? Et je les ai tannés, comme je fais à chaque fois.
Et ça a fini par marcher.
Et en fait, j'ai surtout aussi tanné donc c'est le conseil d'administration aussi qui était clé. Et donc, je me suis dit que c'était, j'ai rencontré le président de l'agence bio et je lui ai dit, mais, OK, moi, je suis pas agricultrice, je suis pas agronome, mais j'ai vraiment vu que la question, dans les premières questions qu'on se posait quand on était à une PME française, c'était quid du bio. Et moi, je veux me rapprocher du bio. Et on a pas mal discuté. Ça a duré longtemps, ça a duré 9 mois.
OK.
Et puis finalement, voilà, j'ai été nommée en fin d'année dernière.
OK.
Et par Julien de Normandie.
Et quel a, du coup, a été ton premier constat en arrivant à l'agence?
Alors, que déjà, ça pouvait être une fierté française. C'est un truc génial d'avoir l'agence bio. On nous l'envie en Europe. Pourquoi? Parce que on est une agence qui promeut l'agriculture biologique, mais on marche sur deux jambes. Ça sert à rien de produire du bio si c'est que pour l'exporter. Il faut aussi le consommer. Ou ça sert à rien de consommer du bio si c'est pour l'importer massivement. Et en France, on est assez équilibré. Le taux d'importation, il est stable autour d'un tiers de ce qu'on importe. Et encore là-dedans, je te mets les fruits exotiques. Donc bon. Et donc, on marche sur ces deux jambes, production et consommation. L'agence, elle a 20 ans cette année. Et pour le coup, ça a été un coup de génie à l'époque où c'était 1% du marché de se dire on veut pouvoir développer cette forme d'agriculture. Moi, j'avais pas pris la mesure environnementale. Je la prends de plus en plus depuis que je suis à l'agence parce que on est très soutenu, par exemple, par les agences de l'eau. ou l'office de la biodiversité. Parce que, bah oui, c'est plus intéressant d'avoir, de massifier, plutôt que d'avoir un mitage d'exploitation bio. C'est, plus il y en a au même endroit, et plus ça permet, du coup, de voir l'impact sur la ressource en eau, sur le coût de traitement, etc.
Et de mettre des agriculteurs bio là où l'eau est captée pour éviter de la traiter derrière par rapport à la contamination aux pesticides.
À l'agence, on finance les projets. On a des entrepreneurs du bio qui viennent nous voir avec des projets qui doivent être multipartenariaux, c'est-à-dire qu'ils doivent à la fois parler à l'amont et à l'aval. Ils doivent entraîner des producteurs vers la conversion bio. Ils doivent avoir des débouchés commerciaux. Et ils viennent nous voir pour qu'on les finance avec cette enveloppe de 13 millions qui a été passée à 13 millions avec France Relance, justement.
D'accord.
Ça fait partie de la relance. Et nous, à chaque fois qu'on met un euro, on contribue à fédérer d'autres euros, à la fois publics et privés. Et dans ces euros-là, il y a effectivement l'agence de l'eau. Donc moi, j'ai découvert avec plaisir qu'il y a des agences de l'eau qui sont à nos côtés pour promouvoir le bio. Après, l'agence, elle a toujours gagné des fonds européens, donc elle a toujours communiqué grâce à l'Union européenne. Et là, c'est pas le cas. Moi, j'arrive, c'est la deuxième année où elle a pas de fonds européens, donc elle doit forger sa communication hexagonale, nationale. Et donc là-dessus, on a un rôle de. J'avais pas non plus pris la mesure de ce rôle d'instance de dialogue et de concertation, parce que dans le bio, il y a quand même des visions très différentes. Il y a des gens qui sont très militants, très de la première heure, très puristes. Et puis, il y a des gens qui sont beaucoup plus business, qui voient ça comme un business, comme un autre. Et nous, à l'agence, on a tout un rôle de faire émerger un consensus vis-à-vis de ces visions qui sont parfois divergentes. C'est l'endroit où, en fait, on se parle.
Okay.
Où on essaye de confronter ces visions-là. Et dans notre conseil d'administration, on a des gens qui ne font que du bio, qui sont militants du bio. On a par exemple la Fédération nationale de l'agriculture biologique, on a le SINABIO, le syndicat des transformateurs du bio, c'est-à-dire les 200 PME qui font des produits bio, quel que soit le circuit, des biscuits, etc. Et puis on a la coopération agricole, les chambres d'agriculture qui eux sont généralistes, même si les bio sont aussi au sein des chambres d'agriculture. En fait,
ouais, bien sûr.
Là par exemple, les chambres d'agriculture ont l'objectif d'accompagner, je crois, 50 000 agriculteurs en bio d'ici 2025. Donc c'est pas anodin. Donc sont des acteurs aussi au quotidien du bio. Donc le but c'est effectivement d'asseoir tout le monde autour de la table et d'en discuter.
Ok. Et alors là, tu nous parles des constats de ta découverte du travail à l'agence bio. Est-ce que tu as eu des constats aussi négatifs? Je sais que tu as un devoir de réserve, mais en tout cas des défis à surmonter là par rapport au bio.
Moi, ce que je vois, enfin sur les 4 premiers mois, ce que j'ai vraiment vu comme priorité absolue, c'est le grand public. Pourquoi? Parce que on s'est retrouvé confiné 16 semaines en 2020, que tout d'un coup les courses ont changé, les menus ont changé, on s'est mis à tous cuisiner. Et donc là, ça a été un vent très favorable pour le bio. Mais en parallèle, ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait plus d'un Français sur deux qui savait pas pourquoi le bio était plus cher. Donc, alors que les Français sont par ailleurs capables de... On dit qu'ils souhaitent rémunérer mieux les agriculteurs français qui sont considérés en plus comme profession essentielle. Moi, ce que j'appellerais de mes vœux, c'est qu'effectivement, l'agence puisse avoir un rôle, une autonomie financière, qui soit corrélée au marché du bio. Parce qu'en fait, pour un marché de 12 milliards, il faut avoir des moyens proportionnés pour pouvoir expliquer au grand public les tenants et les aboutissants de la consommation bio. Donc un peu comme c'est le cas par exemple les produits laitiers, ils ont le CNIEL qui est doté de moyens propres liés au chiffre d'affaires du marché pour communiquer sur et faire ses campagnes par exemple. Donc il y a un vrai enjeu de jouer presque le rôle d'une interpro du bio, parce que jusqu'ici effectivement on a des interpros pour par produit le blé, la viande, etc., le lait. Alors que c'est vrai qu'un agriculteur en bio, déjà, il a une forte rotation de ses cultures, donc
il fait un peu de tout.
Il fait un peu de tout, et puis fait de la polyculture élevage, et donc c'est vrai que jusqu'ici, ça n'a pas été regroupé. Mais maintenant que le bio fait 10% des agriculteurs, on pourrait peut-être se remettre dans le contexte de l'époque où a été montée l'agence bio. L'agence bio, elle devait préfigurer une interprofession du bio.
D'accord.
Et donc, c'est un peu la question qui est un peu centrale pour nous, qui est comment est-ce qu'on peut faire pour être... parce que, en fait, c'est pas pareil. En fait, on est tous à la manœuvre pour promouvoir l'agriculture, mais l'agriculture bio, elle est quand même différente. Donc, elle a des messages différents à faire passer. Elle a une approche différente. C'est une approche globale. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir des moyens en proportion de ce marché? Et ça, c'est un peu ma grande question depuis que je suis arrivée, pour que l'agence, puisse tenir, faire ses missions régaliennes. Elle a des missions qui sont croissantes, notamment, tu vois, la restauration hors domicile. C'est depuis la loi Egalim. Avant, c'était pas forcément un sujet de l'agence. Et puis nous, on a un standard qui explose. Comme les agriculteurs se notifient auprès de nous, plus il y a d'agriculteurs en bio, plus on a besoin de temps, de bras pour répondre aux demandes. Donc, les demandes ne cessent d'augmenter avec le marché. Il faut que les moyens suivent.
Donc, il y a les moyens financiers dont tu nous parles. Il y a aussi l'aspect pédagogique, j'ai l'impression, qui est hyper important. C'est-à-dire qu'en effet, que les gens comprennent les tenants et aboutissants, c'est ce que tu nous as dit, de la consommation bio. Par rapport à ça, justement, j'aurais aimé connaître ton constat, parce que nous, dans la restauration, on le voit, et je pense que ton constat est à peu près identique, c'est qu'il y a une espèce de désinformation sur le bio, où les gens sont suspects parfois du bio, ont l'impression qu'il y a un cahier des charges qui est pas terrible, que le cahier des charges n'est pas le même en Europe, qu'on mangerait différemment en Espagne en bio qu'en France, qu'il y aurait des vérifications qui seraient pas très poussées, donc on pourrait se retrouver avec des pesticides dans nos aliments. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Quel a été ton constat?
C'est exactement les postulats qui font que, avec l'équipe, on s'est posé et on s'est dit, ok, c'est quoi les messages clés, c'est quoi les cibles clés? Et c'est quoi? D'ailleurs, ça a été au centre de la réflexion. Là, on a postulé pour avoir des fonds européens pour justement pouvoir communiquer sur le nouveau règlement. Parce qu'il y a un nouveau règlement qui rentre en vigueur au 1er janvier et qui consiste c'est pas une révolution, mais par exemple, ça va être plus exigeant sur la proportion d'aliments bio. Avant, tu pouvais intégrer un peu d'aliments non bio, 5% dans la ration de certains animaux. Là, maintenant, ça s'est durci. Bon, il y a eu plusieurs changement de ce règlement-là, sur les semences, et comment est-ce qu'on fait pour expliquer et par la même occasion rassurer les consommateurs. Donc c'est un programme qui, nous, on a vraiment sollicité l'Union européenne, on l'a en partenariat avec du coup la Belgique, avec les Wallons, parce qu'ils ont à peu près le même marché du bio, enfin ils avaient les mêmes enjeux, donc on a fait un programme conjoint avec eux, pour lequel on a donc sollicité des fonds européens, parce que notre enjeu clé, c'est à la fois de rassurer et puis de juste objectivement réinformer, parce qu'on parle beaucoup du règlement, mais personne ne le lit. Je comprends, c'est que 200 pages, il y a 200 pages de règlement, il y a 200 pages de guide de lecture. Bon, c'est pour ça, quand je te parlais des agriculteurs qui devaient se former, bon, c'est de la matière grise. La bio, c'est une agriculture riche en matière grise parce qu'il y a des enjeux de formation, d'appropriation du règlement. Et donc, on en vient à se demander si on ne devrait pas effectivement expliquer ce que le bio n'est pas. Effectivement, le bio n'est pas forcément local. Il appartient aux consommateurs de retourner le produit et de regarder d'où ça vient, parce que le bio, c'est un cahier des charges, c'est une façon de produire. On s'engage à cultiver les légumes en plein sol, à avoir tout un de l'espace pour à la fois extérieur, intérieur pour les animaux. On s'engage à produire évidemment sans pesticides et engrais de synthèse. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on rappelle. Par exemple, le fait qu'il y ait des labels qui ont comme promesse de produire sans pesticides, du coup, ça nous oriente. On va plutôt plus communiquer sur le fait que les légumes, ils sont de plein sol, de plein champ. Donc, effectivement, ça va être au cœur de nos messages. Donc nous, à l'agence, on a une communauté sur des réseaux sociaux, on a notre site, on a des événements, on réunit l'écosystème. Et notre but, ça va être de parler effectivement au-delà des convaincus du bio, on va laisser les réfractaires tranquilles.
Ouais,
c'est, notre cible, c'est pas les 10% de réfractaires qui, année après année, nous disent qu'ils mangent jamais de bio.
D'accord.
C'est pas les 13%, je crois, qui mangent tous les jours. C'est dans l'entre-deux, c'est ces gens qui se disent, oui, mais peut-être, mais pourquoi, mais est-ce que c'est vraiment bio si, par exemple, c'est espagnol? Alors oui, le règlement, il est le même partout en Europe. Mais il y a des modalités, il y a des façons de pousser, jusqu'où d'aller dans les recoins du règlement qui sont différentes d'un pays à l'autre. Par exemple, il n'y a pas de limitation de taille d'exploitation en bio.
D'accord. Donc
effectivement, je me fais interpeller sur le fait qu'il y ait des exploitations qui sont pas minuscules. Ben oui, en fait, on a tendance à croire que bio est synonyme de petit, mais pas forcément. Et effectivement, il y a de tout. Non, le bio, c'est un monde, en fait. Il faut de tout pour faire un monde. Et donc, il y a des grands et des petits, quoi.
Mais est-ce que, du coup, le cahier des charges, est-ce que tu peux nous le dire clairement, le cahier des charges est identique partout en Europe, ou est-ce qu'il y a un cahier des charges qui peut différer suivant les pays?
Non, il y a un cahier des charges européen. C'est partout le même. Il est désigné par l'Eurofeuille. Donc, il est contrôlé par des organismes qui ont tous des certificateurs. En France, il y en a une douzaine, des bureaux Veritas, des Certitudes, qui font un contrôle annuel, plus un contrôle inopiné. Au moins, je crois qu'il y a au moins la moitié qui a un contrôle inopiné par an. Et c'est le même règlement. La loi est la même pour tous les pays. Donc ça, c'est un cahier des charges européen.
Et alors, quand tu nous disais, il y a certains pays qui vont dans les interstices de ce cahier des charges, ça veut dire quoi?
Ben, par exemple, ben, nous, on n'a pas beaucoup de très, très gros, de poulaillers, à plusieurs milliers de poules. On a très peu de poulaillers au-dessus de 24 000 poules. Et encore, c'est toujours, le règlement oblige à ce que ce soit des compartiments de 3 000 poules. Voilà. Donc, on en a très peu. Mais à l'inverse, nos voisins, ils peuvent avoir des Européens, ils peuvent avoir des poulaillers à 100 000 poules, bio. Voilà. Donc, nous, on sait parce que on n'a pas forcément eu les entrepreneurs qui ont voulu de faire du bio comme ça. Mais c'est parce que c'est aussi une vision française. C'est parce que aussi il y a un enjeu de foncier. Parce que si tu veux beaucoup de poules, ben, comme il y a un nombre de mètres carrés obligatoire par poule, ben, si tu vas pas trouver du foncier comme ça sous le pied d'un cheval. Donc, si tu veux mettre X milliers de poules, ça veut dire que tu as besoin de X milliers d'hectares, et puis ça veut dire que tu dois aller voir ton banquier en disant, ben voilà, j'ai besoin de entre tel et tel million d'euros. Bon, c'est pas forcément le chemin qu'on prend. Après, il y a quelques élevages, effectivement, qui sont gros, mais on n'a pas du tout cette culture du gigantisme, pas encore.
En fait, c'est comme tout cahier des charges. Nous, on le voit chez Écotable, c'est que soit tu décides de le respecter à la marge, et tu peux être labellisé bio, soit tu peux être beaucoup plus jusqu'au boutiste et rajouter des critères, développer vachement plus que ce que le critère de l'Eurofeuille. Ce point, je le soulève par rapport notamment à l'aspect social. Souvent, on pointe du doigt le bio espagnol comme ayant des problématiques en termes de travailleurs immigrés, notamment dans le sud de l'Espagne. On est d'accord qu'en fait, le cahier des charges bio a été créé pour des raisons de santé avant tout, puis environnementales, mais en fait, n'intègre pas aujourd'hui, en tout cas, cet aspect social.
Officiellement, le bio n'autorise pas à ne pas respecter le droit du travail.
Oui,
hein, c'est pas
bien
non
sûr.
Plus. Après, je peux pas vraiment. Je ne connais pas l'Espagne. Moi, je m'occupe du marché français. Ouais. J'ai effectivement moi aussi lu les enquêtes sur le bio espagnol. J'ai absolument pas d'informations officielles. Et c'est vrai qu'à l'Agence Bio, notre périmètre c'est la France. C'est pour ça qu'il y a certaines voix qui demandent que le cahier des charges, de toute façon, il évolue. C'est une matière vivante. Et donc, c'est intéressant. Parce que les préoccupations des consommateurs vont être les aiguillons qui vont permettre de voir dans quelle mesure il va être évolué. Et c'est vrai que la question sociale, moi je suis étonnée, j'entends moins parler que la question locale, par exemple, ouais. D'avoir un pourcentage. Il y a des labels régionaux, dans certaines régions qui disent voilà, bah nous dans telle région, on a ce label qui vous prouve que ça n'aura recouru qu'à des ingrédients, à 95% d'ingrédients régionaux ou de la région d'à côté. Donc moi, c'est le premier aiguillon que j'avais à l'esprit, c'était plutôt le local qui m'a l'air d'être la préoccupation du moment. Et c'est vrai que le social est moins évoqué quand je me fais interpeller. Ouais.
Mais justement sur le local, j'aime toujours poser cette question et j'ai quasiment toujours la même réponse. Qu'est-ce que vous préférez entre manger local ou manger bio? Et on me répond souvent manger local. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi?
Je suis très étonnée. En fait, je pense que ce qui explique cette réponse-là, c'est que c'est plus facile de faire confiance à quelqu'un qui est à côté ou que tu vois. Et donc, c'est peut-être pour ça. En fait, je peux pas. C'est pas mon rôle de répondre sur précisément à ça. Ce que moi, mon job, c'est de faire en sorte que de plus en plus localement, quand cet individu là dont on parle et qui veut manger local regarde autour de lui pour acheter, bah là, il a une chance sur 10 d'avoir un agriculteur en bio, puisqu'on a à peu près. Bon, il en a beaucoup plus dans le sud, dans Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, mais bon, 10% des agriculteurs dans les parages, donc il a une chance sur 10 d'avoir un agriculteur. Si vraiment il veut acheter local, ben à ce moment-là, le bio, il faut juste œuvrer à ce qu'il y ait de plus en plus de bio dans ces parages-là. Et on a vu que, nous, dans un baromètre qu'on a publié en mars, il y a beaucoup plus de gens qui ont utilisé leur heure de sortie, d'autorisation de sortie, pour prendre leur voiture et aller chercher du bio dans les parages. Nous, on a un annuaire du bio sur le site de l'agence où tous les opérateurs en bio sont répertoriés. Donc, si tu étais confiné à Blois, tu mettais Blois, tu mettais ton kilométrage autour duquel tu étais prêt à aller et tu pouvais trouver des œufs en bio. Donc ça, on a vu que c'était... En fait, bio et local, c'est l'idéal.
Oui, ton enjeu, c'est qu'en fait, on n'arrête pas forcément de manger local, mais en tout cas qu'on mange bio et local.
Oui.
Et peut-être quand même que les gens comprennent que le local n'est pas forcément vertueux, parce que le local peut être conventionnel et donc avec beaucoup de pesticides. De manière générale, qu'est-ce que tu dirais là justement pour convaincre cette masse de personnes qui mangent bio de temps en temps, mais qui a des doutes? Qu'est-ce que tu leur dis pour les convaincre de manger bio?
Alors, ça dépend du frein qu'on me met en avant. Par exemple, on me dit « Ah, mais moi, ça m'arrive régulièrement qu'on me dise « Le bio, c'est un truc de bobo, c'est trop cher. » Effectivement, le frein, l'an dernier, on nous avait dit à 80% que c'était le premier frein. Cette année, ça a baissé, 73%. Parce que je pense que du coup, avec une épidémie mondiale, un enjeu, une angoisse sur la santé, les gens sont plus enclins à investir sur la santé par l'assiette. Et donc, d'une manière générale, souvent, les premiers arguments qu'on déploie à l'agence, c'est de dire, mais vous savez, on peut manger à bio à budget très maîtrisé. Il y a en gros 5 grands leviers à activer. Alors oui, ça va vous demander un peu plus d'énergie, d'anticipation, 2 ans de cerveau. Mais si vous voulez manger bio et par ailleurs baisser le coût de votre assiette pour maintenir un équilibre, il n'y avait pas 36 solutions. Déjà, faut pas gaspiller. Parce que c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Avec 20 kilos de déchets par an par habitant, il suffit de baisser ça, ça se ressent tout de suite dans le pouvoir d'achat. Ensuite, et ça, ils sont entièrement d'accord parce qu'ils nous répondent dans toutes les études qu'ils veulent acheter local, nourriture moins intermédiaire. Parce que si tu vas chercher à la ferme d'à côté, t'as pas d'intermédiaire, c'est des prix ultra compétitifs. Ensuite, il y a le fait de cuisiner plus. Ça, on a tous cuisiné plus cette année. Quand tu cuisines des produits bruts, mécaniquement, ton panier, ton budget nourriture, il baisse. Donc, c'est aussi du temps. Ensuite, il y a le fait de manger de pleine saison. En fait, quand tu veux manger bio, que tu trouveras pas des cerises hors saison dans les magasins bio, etc. Tu vas trouver des fruits de saison qui sont là au moment où la récolte est la plus abondante, où les fruits sont évidemment les meilleurs, plus gorgés de sucre et de vitamines, et où les prix sont les plus bas. Donc il y a un enjeu aussi, tu dois te rebrancher aux saisons.
Ouais.
Et puis il y a un cinquième levier, et je sais que chez Ecotop ça vous parle, c'est d'acheter plus de vrac, d'avoir une nourriture pour un moment aller, parce qu'on sait que l'emballage c'est quand même un pourcentage non négligeable du prix final du produit, et donc si t'achètes en vrac, tu fais mécaniquement baisser ton prix. Donc ces 5 leviers là, si tu les actives, après il y a de fortes chances que ce ne soit plus du tout ton frein.
Et c'est donc marrant, t'as pas parlé de plus de végétal.
Oui, effectivement, il y a ça. Bon, mon maître à penser, ça j'ai oublié de te le dire aussi, c'est que quand j'ai eu mon épiphanie, c'est que j'ai lu un livre qui a changé ma vie, qui est Le dilemme de l'omnivore de Michael Pollan. Et effectivement, c'est hyper intéressant parce que Michael Pollan dit que la nourriture, la viande, donc l'élevage est évidemment indispensable pour fertiliser sans avoir recours à du fertilisant de synthèse, mais que la viande doit être pensée comme un condiment, c'est-à-dire qu'il faut un peu moins de viande, mais mieux de viande. Et c'est vrai qu'en France, on a une viande, on le dit pas assez, mais on a quasiment pas de feedlot. On n'a pas de feedlot. On a des vaches nourries à l'herbe qui ont des mètres carrés, qui sont à l'aise, et on a des races anciennes, excellentes, des races à viande excellentes. Et donc, ces l'élevage fait vraiment partie du cycle de l'agriculture. On a besoin de l'élevage. Ça fait des milliers d'années qu'on cohabite avec les animaux. Là-dessus, la meilleure lecture que je puisse recommander, c'est Jocelyne Porcher. C'est tous les ouvrages de Jocelyne Porcher, qui est à la fois éleveuse et chercheuse au CNRS, montrent comment la relation homme-animal s'est construite au fil des millénaires pour avoir une relation équilibrée et vertueuse des deux côtés. Et donc effectivement, il y a un enjeu de manger plus végétal, mais c'est vrai que le consommateur bio en mange déjà plus que la moyenne.
Oui. Mais pour convaincre ceux qui consomment beaucoup de viande aujourd'hui et pour qui ça représente une part importante de leur oui. de leur panier, ça peut être intéressant.
C'est vrai que le nourriture moins carnée, utiliser et puis réutiliser la viande. Moi, je sais que le basculement vers le bio, c'est là où tu utilises ta carcasse de poulet pour faire des bouillons.
Bien sûr.
Ça veut dire que tu gardes. C'est une autre valorisation de la viande. Ça veut dire que tu. Là aussi, t'es obligé d'anticiper et de cuisiner plus parce que tu vas acheter peut-être des morceaux moins chers. Et c'est ce que font les cantines pour mettre du bio dans les assiettes. C'est que tu vas acheter par exemple des morceaux de l'avant des animaux, donc les parties les plus musclées, puisque le poids de la bête repose sur l'avant, donc c'est des parties qui ont plus de collagène, donc qui sont plus dures, donc on fait les cuire plus longtemps. C'est ces fameuses pièces à mijoter, les pot-au-feu, les trucs où on n'a plus le temps. Enfin, si un Français consacre 20 minutes à préparer son dîner, il peut évidemment pas faire mijoter 3 heures un morceau de paleron. Et donc, c'est vrai que pour manger bio, il y a à allouer un peu plus de temps à la préparation d'un repas, parce que ça permet justement de valoriser des morceaux qui sont pas des steaks hachés, quoi.
Ouais.
Qui sont pas des entrecôtes.
Intéressant. En tout cas, donc c'est ce premier frein que tu identifies, c'est que le prix ne doit pas, en tout cas, empêcher de consommer bio. C'est quoi les autres arguments que tu mets en avant?
Il y a parfois la confusion. Alors moi, on me demande si c'est mieux pour la santé, mais en fait, une chips, bio ou pas, elle va être sucrée et grasse. Donc en fait, ça ne relève pas du choix du bio ou pas, ça relève de ton équilibre alimentaire que tu construis à la journée, à la semaine, à l'année, quoi. Et donc c'est vrai que
il y a l'aspect pesticide quand même.
Oui, alors ça on va y venir effectivement, mais il y a moi c'est ce qui m'a frappé ces derniers jours parce que j'ai été interpellée sur si on veut faire un régime, faut manger bio. Ça n'a rien à voir en fait. Le bio n'est pas synonyme de diététique. Donc effectivement, c'est des recettes avec des ingrédients plus nobles parce que comme tu peux moins recourir à des additifs, ben t'es obligé quand même d'avoir des matériaux de matières premières plus nobles. Mais du coup, enfin, ça m'a laissé un peu perplexe.
Oui, tu peux manger du transformé bio et tu peux manger des frites bio. Et,
mais oui, mais bien sûr. Enfin, c'est décorrélé. Après, effectivement, à la fois dans effectivement le pesticide, la présence de pesticides résiduels qui a été trouvé dans un cas mais ultra mineur de foie, ça a inquiété les consommateurs, mais. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ça peut arriver. Alors, c'est contrôlé. Il y a des prélèvements quand l'organisme vient, c'est contrôlé. Mais c'est vrai que tu peux avoir, du coup, ton voisin qui n'est pas en bio et ses pesticides de synthèse vont ruisseler et donc il va y avoir un cas de contamination. Et ça arrive très rarement. C'est pour ça, d'où l'intérêt que de massifier, de se regrouper entre bio, d'avoir des implantations pas mitées. Mais d'une manière générale, c'est pas une garantie d'absence totale de pesticides, le label bio. C'est la garantie que ça a été cultivé sans pesticides. Donc, c'est une obligation de moyens. Et c'est souvent ce qui peut être reproché au bio, c'est que c'est pas forcément le résultat. Sauf que le résultat, il est là. De fait, la présence des pesticides, elle est dérisoire, elle est accidentelle, elle est vraiment sans commune mesure avec le reste du marché.
Oui, et puis il faut pas oublier que le pesticide est une pollution diffuse. Donc malheureusement, aujourd'hui, il y en a dans l'air, partout, à la campagne, dans la ville. On est contaminé par des pesticides. Donc la question, c'est quel type d'agriculture on veut promouvoir et probablement une agriculture sans pesticides. Est-ce que la transition alimentaire passera forcément par le bio et que par le bio ?
La transition alimentaire, c'est une vaste cousinade en fait. Il y a toutes sortes d'initiatives. Effectivement, le bio peut pas garantir que c'est français. Donc, ça dépend un peu des préférences des consommateurs. Si t'es un consommateur et que ton credo c'est vraiment de manger français, le bio, ça va pas suffire sur le label pour te garantir que le produit qui est bio que tu vas prendre dans les rayonnages et français. Donc il va falloir que tu fasses un effort en tant que consommateur, que tu retournes le produit, que tu regardes sa provenance. En fait, le bio pour moi, c'est le fer de lance, c'est la forme la plus formalisée, la plus ancienne de label, de certification vis-à-vis de réassurance vis-à-vis du consommateur. Mais c'est le comme tout bon élève. Enfin, il faut pas donner que les félicitations du jury. Il faut qu'on remarque qu'il y a des mentions bien, des encouragements, des tableaux d'honneur, etc. Et il y a toutes sortes d'initiatives qui vont dans le sens de mieux manger et qui activent des leviers qui sont pas forcément les leviers les plus dominants. On parle toujours des pesticides et de synthèse, mais c'est pas, il y a pas que ça. Il y a effectivement l'enjeu local, typiquement. Il y a l'enjeu équitable. Parce que maintenant, le commerce équitable est de plus en plus poussé par le commerce équitable nord-nord, pas que nord-sud. Donc là, ouais. On sort de l'exception Marco Polo, café, thé, sucre et banane. Donc, pour moi, c'est vraiment un d'une manière générale, quand quelqu'un décide de modifier son assiette pour se mettre en cohérence avec ses convictions parce qu'il veut lutter contre le réchauffement climatique. Bon, le bio, c'est le premier point de repère. Nous, on le voit parce que le dernier baromètre qu'on a publié, la première région invoquée en moyenne sur l'ensemble des répondants, on fait l'étude auprès de plus de 2100 Français, c'est pourquoi vous mangez bio ? La première raison invoquée, c'est pour ma santé. Mais si tu regardes, si on zoome que sur les 18-24 ans, la première raison qu'ils invoquent est... pas à 48% comme la moyenne de la santé, à 62% ils nous disent c'est pour l'environnement. Donc
ils ont quand même compris que c'est un enjeu majeur, parce qu'on en a pas parlé là tout à l'heure du local, mais c'est, il me semble, si je te donne les bons chiffres, là c'est 57% des émissions de gaz à effet de serre qui est seulement sur le mode de production.
Ouais, et ensuite, oui, c'est pour ça que... En fait, il vaut mieux promouvoir le bio parce que tu agis plus sur le mode de production qui a plus d'impact plutôt que de se préoccuper de la provenance. Parce qu'effectivement,
le transport, c'est 17% en comparaison. Voilà.
Mais c'est vrai que le transport polarise vachement plus l'attention des consommateurs qui se disent « Ah là là, ça a voyagé ». Oui, mais en même temps, ça a fait du bien là où ça a été produit parce que ça a été produit de façon vertueuse et respectueuse de l'environnement. Mais après, le consommateur français a peut-être pas envie de promouvoir le bio en Bolivie avec de la quinoa bio. Pas de problème. Mais à ce moment-là, il y a plein de solutions de produits autres qu'il peut trouver françaises. Nous, on a notamment financé le riz de Camargue bio. Ben, ça, c'est si tu veux faire ta base de salade, ben, tu as une possibilité de bio français avec une céréale comme le riz, quoi.
Ouais. Ma dernière question, ce sera sur l'avenir. C'est quoi l'avenir pour toi et c'est quoi l'avenir pour l'agence?
Alors moi, c'est de me mettre justement au service de l'agence et de promouvoir le bio au sein de la transition alimentaire. Là, il y a un foisonnement, c'est de à la fois faire en sorte que les consommateurs soient outillés pour pouvoir faire leurs courses avec tous les tenants et aboutissants du bio. Globalement, il y a 9 Français sur 10 qui sont des consommateurs occasionnels de bio. L'enjeu, c'est que les consommateurs mensuels deviennent des consommateurs hebdomadaires et puis les consommateurs hebdomadaires quotidiens. Pour ce qui est des cantines, l'enjeu, c'est justement de répondre à cette demande. Ce qui est génial, c'est que cette loi, elle est extrêmement, elle ouvre un marché. Parce que là, on achète au dernier chiffre 2019, en gros, les achats de matières premières en bio, c'était 389 millions d'euros en France. Et ça représentait entre 5 et 6% de l'assiette. Si demain, d'un coup de baguette magique, on passe au 20%.
Qui est le 1er janvier 2022, n'est-ce pas?
Oui.
Donc demain.
Donc demain, exactement. Ça veut dire que ça ouvre un marché d'1,4 milliard. Donc c'est colossal. Donc le bio en restauration collective, c'est là les vents sont favorables. La prochaine frontière, et ça c'est, je pense que Equitable s'en rend compte très bien, c'est la restauration commerciale. C'est comment est-ce que à l'école de cuisine, à l'école hôtelière, on fait le lien avec le monde du bio. Comment est-ce qu'on arrive à sourcer du bio, comment est-ce qu'on apprend à le cuisiner, parce qu'effectivement on parlait de ces bas morceaux qui demandent des cuissons différentes, qui se comportent différemment à la cuisson par exemple, ou qui peuvent perdre moins d'eau. Et donc comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer le bio dans le quotidien et les réflexes des chefs. Donc ça, je pense que ça va être ça l'avenir, c'est la restauration commerciale. Et moi j'espère que du coup dans quelques années on pourra peut-être se revoir, faire un épisode et se dire oh là là, on était à 2% de bio en restauration collective à l'époque et là maintenant on est à 15% en commercial, à 15%, oh là là, mais c'est génial. On se pourrait regarder en arrière et voir tout le chemin parcouru, mais ça, pour ça il va falloir travailler sur toutes sortes de leviers. Il y a vous êtes au quotidien avec vos formations au contact de ça avec Ecotable. Il y a le sourcing, effectivement. Comment est-ce que ben je m'insère dans un tissu de producteur autour de mon restaurant? Il y a comment est-ce que ben je gère mon coût matière, parce que effectivement, si j'ai du renchérissement en bio, comment est-ce que je regagne par ailleurs? Non, on a vu en restauration collective des initiatives géniales avec des chefs de cantine qui investissaient dans un nettoyeur vapeur. Du coup, ils avaient plus besoin de détergent. Hyper vertueux. Et donc, ils pouvaient réinvestir ces économies dans la matière première agricole. Donc, voilà. Et ça, du coup, l'avenir pour l'agence, ça va être effectivement de continuer de parler au grand public, de parler sur des réseaux sociaux, de fédérer, qu'on ait une équipe de France du bio, qu'on ait un collectif du bio pour pouvoir effectivement outiller. Moi, j'ai pas vocation à être prosélyte. Enfin, les consommateurs, on est dans un marché libéral. Le libéralisme, c'est des consommateurs rationnels qui font leur choix. Bon, notre job, ça va être de leur mettre tous les outils en main pour qu'ils puissent faire des choix éclairés, en espérant évidemment qu'ils choisissent le bio, parce qu'au fond de nous, on sait que le monde de demain sera plus bio. Mais ça va être aussi de promouvoir le bio dans tous les moments du quotidien, et dont je te parlais de la restauration, et après il y aura peut-être, je sais pas moi, la distribution automatique, il y a les aires d'autoroute, il y a toutes sortes d'endroits où le bio a sa place à faire, parce que si c'est 10% des agriculteurs, il n'y a aucune raison que ce soit pas et que c'est en forte croissance, parce que rappelons que c'est quand même en forte croissance, il n'y a aucune raison que ça se traduise pas partout. C'est un peu comme c'est comme de l'eau, il faut que ça ruisselle un peu partout, quoi.
Mes deux dernières questions, ce sera les questions que je pose à tous mes invités. La première, c'est: est-ce que tu te considères comme une militante de l'assiette? Est-ce que le terme militante convient?
Dans mes courses au quotidien, dans le fait que je fasse des détours, dans le fait que pour aller acheter certains produits à certains producteurs, dans le fait que je prenne du temps, tu vois, là tu me vois, je m'aurais pu décider d'être beaucoup plus pomponnée, mieux sapée, manucurée. Bon, tout ce temps-là, je le prends pas parce que en fait, il est absorbé par le fait de cuisiner plus, de passer plus de temps. C'est un arbitrage personnel, mais je pense que ça révèle combien la nourriture est clé pour moi, et elle est vraiment en haut de la pile de ma to-do list. Enfin, et on a toutes des to-do list, quoi. Donc je pense que oui, je suis venue, on n'a pas parlé aussi au bio parce que je faisais je voulais pas d'OGM dans mon assiette en tant que consommatrice.
Ah oui, c'est intéressant.
Ouais, et c'est vrai que le
José Bové t'a convaincu.
Quand j'étais ado, je me souviens que j'ai grandi en Corse où on avait régulièrement des restaurants plastiqués, et c'est vrai que c'était la première fois que je voyais un Continental comme ça démonter un McDo. Je me souviens de Mio, je m'étais dit tiens, et à l'époque j'avais pas du tout saisi tous les enjeux derrière. C'est qu'après que du coup ça a d'ailleurs réorienté pas mal mes choix d'options à Sciences Po. Et la nourriture a orienté pas mal de choix d'options à Sciences Po, et notamment celle sur la pub. En fait, j'hallucine parce que notre cortex, il est à la merci des pubs. Quand je vois que des KFC ou ce genre de chaîne, quand ils font de la télé à 20h, le lendemain, ils ont plus de 20% de chiffre d'affaires. Il y a un énorme levier, là-dessus. Et puis, j'avais pris notamment beaucoup de cours sur, à l'époque, il y a quelqu'un dont les livres restent, Feu Anthony Rollet, qui animait un cours qui s'appelait Histoire de la gastronomie, c'est vraiment un cours de culture générale. C'est tout le raffinement de quelqu'un d'extrêmement érudit qui vous accueille en cours avec un coup de champagne. Enfin, ça a vraiment prédisposé. Donc, c'est au-delà de militant, c'est aussi l'idée que je me fais de la bonne personne. C'est que pour moi, je veux pas être quelqu'un qui gobe de la nourriture debout sans y penser, sans être concentré, sans être pleine de gratitude pour les gens qui le produisent. C'est pas non plus dire le bénédicité, mais quand même.
C'est beau ce que tu dis. Non,
mais
c'est vrai.
Mais c'est pas que ça. Moi, j'admire vraiment l'époque du grand siècle, ou les salonnières du 18e. Parce qu'il y avait ce côté. La nourriture était. Devait être aussi élégante que la conversation, et devait être aussi. Moi, je vois vraiment l'enjeu de l'élégance autour de la nourriture. Pour moi, l'agressivité, elle baisse. Quand on prend une pause déjeuner tous ensemble avec des collègues, pas l'agressivité, la tension, en fait. Je pense que vraiment la commensalité, c'est un mot clé. Vraiment, manger ensemble, déposer les armes comme sous l'ancien régime, parce qu'en fait, le fait de trinquer, c'était aussi d'offrir sa gorge et d'être désarmé.
Ah oui.
Donc, pour moi, c'est proche de l'idée que je me fais d'être une bonne personne, en fait. C'est d'être quelqu'un qui respecte la nourriture, qui passe un minimum de temps à table. Moi, j'ai très peur, la pause déjeuner, pour moi, c'est sacré. Je mangeais devant mon ordinateur, c'est d'une tristesse sans nom. Je me souviens de manger debout, par exemple, aussi, ça m'a rendu très triste. Paul Morand est allé aux États-Unis et il était fasciné par ces gens qui déjeunaient debout dans des dîners. Enfin, il disait, mais c'est quoi ces gens? On dirait qu'ils sont à les tables. Donc, j'ai un petit côté, française, peut-être un peu réac, mais c'est vrai que moi, la pause déjeuner, elle est sacrée, vraiment.
Je comprends.
Donc, c'est militant que de pas retourner, de pas accepter de réunion et de plateau repas et de...
Ouais, c'est clair, c'est clair. Dernière question, alors je sais pas si tu peux y répondre en termes de réserve. C'est pas grave si tu n'y réponds pas. C'est quoi la mesure politique aujourd'hui qui ferait changer les choses en termes d'alimentation durable?
Alors là, j'en ai plein, mais qui sortent de mes attributions. Tu me demandes en tant qu'agence bio?
En tant que toi.
En tant que citoyenne? Moi, il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'il y ait des numerus clausus de médecins et pas de restaurants de burgers, par exemple. Bon, ça pourrait être une chose. Moi, j'ai toujours été sidérée que les sodas soient en vente libre, en fait, alors que pour le plus connu d'entre eux, pour moi, c'est vraiment, je n'en consomme que quand j'ai une gastroentérite. Donc, par exemple, j'aurais imaginé que ça puisse être délivré sur ordonnance, uniquement. Voilà.
Après... En tout cas, qu'on fasse plus le lien entre santé et alimentation.
Mais je pense que les gens le font très bien. Après, il y a beaucoup de choses qui entravent ça. La pub en fait partie. Enfin, c'est hyper difficile de partir plein de bonnes résolutions un lundi matin en se disant je vais manger beaucoup plus sainement. Et oui, t'es dans le métro et là t'as trois écrans de nourriture dégoulinante hyper appétissante. Bon bah, c'est ton cerveau reptilien. Là, tu peux pas lutter quoi.
Donc peut-être que ta mesure c'est ça, c'est que la pub prenne en compte ces besoins de transition alimentaire et sanitaire, et qu'on arrête de payer aussi fort derrière les impacts de la production
actuelle. Effectivement, la publicité, il y a eu plusieurs fois des avancées qui sont restées, je crois que... Oui, il y a toujours... Alors je sais pas, j'ai pas la télé, mais est-ce qu'il y a toujours de la pub le matin pendant les dessins animés d'enfants?
Je sais pas.
Ouais, voilà, bobo, évidemment, on ne sait pas, mais...
En tout cas, pendant Top Chef, qui est la rare émission que je regarde, il y a.
Ok, bon, d'accord. Non, effectivement, moi j'étais toujours assez loin de la télévision et de la publicité, donc je suis pas au courant. Mais c'est effectivement, je vais me pencher sur la question dans les prochains mois.
Merci beaucoup, Laure.
Merci, Fanny.
Merci d'avoir écouté Sur le Grill d'Écotable. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que, comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 sur 5. De vous abonner et d'en parler autour de vous. Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe engagé, le Caribou Volant. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants écotables. À bientôt sur notre grille!